Ben alors, on vous a invité dans cette semaine du libre parce que d'une part on ne vous connaissait pas, puis on pense que, on suppose que vous entrez un petit peu dans cette démarche de non-marchand et de services entre guillemets gratuits qui maintenant sont presque considérés comme attentatoires
à la bonne marche de l'économie.
Et à la bonne marche de l'économie, voilà, exactement.
Et
donc, comment vous connaissez pas, ben on vous a invité à venir en parler, puisque c'est comme ça, on va essayer de trouver les questions qui fâchent pour rendre le débat un peu plus piquant.
Ah,
les questions qui
fouillent. Oui, non, mais c'est bien d'aller chercher un peu les vraies questions. C'est vrai que les gens qui ont un projet associatif, ils le défendent, en général, ils sont rodés pour vendre leur baraquin. Et après, il faut voir, il faut faire un peu d'évaluation. Mais moi, je suis tout à fait particulièrement pour ça, parce qu'on a des idées qui sont bonnes, mais après, la mise en œuvre, on réfléchit comme tout le monde.
Alors, on va plus ou moins se présenter, parce qu'on est enregistré. Il est possible que ça passe dans une radio quelconque, style Radio Zinzine, Les Collègues Garrigues ou Radio Galère, on ne sait jamais.
Ouais.
Si. Donc, tu es le coordinateur régional des réseaux d'échange de savoir sur PACA.
Oui, sur PACA.
D'accord. Et donc, avec toi, sont venus des gens d'Aubagne.
Tout à fait.
Hélène, d'Aubagne, donc... Cerise,
qui font partie du réseau.
Cerise d'Aubagne.
Une petite rapide présentation, oui.
Cerise d'Aubagne.
Véronique de Draguignan.
Franck d'Aubagne.
Bien. Et voilà, ben on vous écoute, on est tout
oui. Vladimir.
Vous êtes le public, c'est pas pareil.
D'un peu partout, Vladimir d'un peu partout.
Ouais, voilà, parce que je me connais
tout. Monsieur Julien de Marseille, étudiant en anthropologie.
Et Clémentine, étudiante en sociaux de Marseille.
Et moi de Marseille, je m'occupe d'un site internet notamment, de pas grand chose, j'essaie de mettre quelques outils à disposition d'autres personnes pour essayer de faire avancer un peu le cheminement. Alors, le réseau d'échange de savoir.
Bah, peut-être parler de...
Convaincre.
Comment ça marche chez vous, déjà, c'est bien un exemple concret. Puis ça leur amènera les premières questions, c'est pertinent.
Bon, concrètement, je pense que vous ne connaissez pas du tout, mais... Donc, concrètement, comment ça se passe la personne qui vient. Bon, chez nous, c'est l'adhésion est gratuite. Pas d'adhésion. Et on fait des offres et des demandes de savoir. Donc là, ce n'est pas des échanges de services, c'est que des échanges de savoir. Donc, tout ce qu'on fait dans le quotidien, donc ça peut être des savoirs techniques, donc de coller, la mécanique, les travaux manuels, ça peut être des savoirs, on dit intellectuels, donc tout ce qui est langue, voilà, après faire des cours d'anglais, de ce qu'on veut, ou partager une expérience, si on a fait des voyages, partager voilà, si on a des photos, partager ce qu'on a vécu. Donc tout s'échange, chacun peut apporter son savoir, son savoir-faire. Et donc on fait des offres et des demandes. Et après, donc là, le but de l'association, c'est de mettre en relation ces personnes, qu'elles échangent. Et donc après, il y a une mise en relation, donc dès qu'il y a une offre et une demande qui correspondent. Par exemple, on va faire de l'informatique, ça risque vraiment prendre à tapoter sur l'ordinateur. Donc, on va se rencontrer avec un médiateur qui fait donc la mise en relation. Et on va convenir ensemble de l'échange, si on se voit une fois par semaine, si on se voit chez toi, chez moi, au local, si on se... Voilà, quelle méthode, quelle fréquence.
Et voilà. Quels sont les moyens que vous utilisez pour vous mettre en contact? Est-ce que vous utilisez tous les moyens? Internet?
Non, Internet, non. On est encore un peu fort. Ouais.
C'est le phobing, le téléphone, souvent.
Non, là, ouais, voilà, c'est
le téléphone.
Donc, c'est les médiateurs qui mettent en relation. Après, quand on a des temps conviviaux, ça permet aussi de se rencontrer, donc de faire carrément des échanges. Donc, c'est vraiment...
Dans un local, voilà. Peut-être
Alors là, pour nous, on a un local, voilà. Donc, on fait tout ce qui est collectif. Et aussi les échanges plus individuels, si les personnes ne veulent pas le faire chez elles, c'est pas obligé, surtout au premier contact. Donc voilà. Après, comme on disait, chaque réseau, enfin, donc tout le monde peut faire partie d'un réseau, puisque un enfant peut apprendre à faire, nous, ils nous apprennent à faire les grenouilles en papier, n'importe quoi, je veux dire, c'est ça qui est intéressant, donc, toutes les générations, toutes les cultures. Mais ce qu'on disait, c'est vrai que chaque réseau, après, selon le public majoritaire, enfin, je veux dire, chacun vit après, et chaque réseau vit selon le quartier où il est implanté, selon s'il y a des difficultés permanentes. Enfin, moi, je suis salariée en emploi jeune, et une autre fille en salarié, donc selon voilà, chaque réseau tourne un peu vraiment différemment, mais selon un peu les mêmes principes quoi, d'échange, de gratuité.
Ce qu'on constate quand même, c'est que ces réseaux, ça marche quand il y a de la diversité dans le public. Et donc un réseau qui démarre, par exemple, dans un quartier trop fermé ou sur un endroit trop marqué, il y a une localisation unique, du coup, il y a très peu de chances qu'il y ait de la variété après parce que c'est trop marqué. Les personnes qui viennent, première fois, le truc ici, c'est assez unique par rapport à leur vie. Donc cette diversité, c'est quand même une condition un peu de départ.
Et est-ce qu'il y a des comment vous appelez ça, des cellules, des réseaux? Est-ce qu'il y a des réseaux locaux en fait? Un peu local,
ouais, régional.
Est-ce qu'il y a des réseaux spécialisés, je ne sais pas moi, sur des talents un peu précis, ou artistiques, ou pas ou...
Il y a des dominantes selon les réseaux. Et en plus, même dans un réseau d'une année sur l'autre, parce qu'il y a un gros turnover quand même dans les adhérents. Donc il y a cette variable. Sur Nice, il y a eu des années très artistiques, des années très langues.
Des très cuisine,
informatique.
Et est-ce que les gens durent dans leur appartenance au réseau? Est-ce que c'est un truc un peu à vie ou est-ce que c'est un truc dans lequel les gens passent? Je ne sais pas.
Il y a les deux.
Il y a vraiment les deux.
Ouais. Ouais. Il y a des endroits où c'est les mêmes mamies, souvent c'est les mamies, depuis des années. Et puis il y a des endroits où ça remue et du coup ils ont même des difficultés pour leur noyau de base. Donc les réseaux, ça naît, ça vit, ça meurt, mais des fois en 2-3 ans, parce qu'il y a un moment, ça correspond à un besoin. Donc si c'est après une suggestion, une prescription professionnelle, s'il y a un professionnel qui est là, il va relancer la machine. Mais sinon, si c'est une dynamique locale d'habitants, c'est comme des cèpes qui naissent à un moment donné dans le territoire, ça correspond à une demande, et puis après, ces gens-là font autre chose, notamment des gens qui sont sans activité. Je sais que c'est par ici, je crois qu'il y a un sel, parce que je fais un travail un peu d'équipe comparative entre les sels et les réseaux sur la région PACA. Ça m'a permis de voir un peu des choses. Là, c'est un sel de par ici, je crois, qui avait démarré sur des femmes là, avec des enfants en bas d'âge. Et après, bah, ces femmes, elles ont leurs enfants ont pris l'école et au bout de 3 ans, elles ont fait autre chose. Et ça a produit quelque chose de beau comme ça. Donc c'est très, très variable, il n'y a pas de modèle. C'est-à-dire, en réseau des champs savoir, il y a un modèle.
Et alors, puisque tu as travaillé justement sur la comparaison entre les sels, ça nous intéresse parce que on connaît un peu plus les sels quand même, hein, dans les milieux alternatifs, etc. Ouais. Et on vous connaît moins. Alors, moi, quand je présente les réseaux d'échange de savoir, je viens de discuter un peu au téléphone, et la comparaison est immédiate, hein, c'est très clair. Si tu peux la rappeler un peu.
Bon, ben, le principe de toute façon du réseau d'échange de savoir, on n'échange que des savoirs. Donc c'est avant tout un mouvement pédagogique, hein, c'est un mouvement d'éducation populaire, donc qui revendique le savoir comme étant à tous. Donc c'est comme tout le monde est lié vers moi, mais aussi tout le monde capable de produire du savoir. Hein, et donc il y a des savoirs qui sont des savoir-être notamment, et qui ne sont pas liés à un cursus scolaire ou à un apprentissage formel. Donc nous on est vraiment en échange, un mouvement sur le pédagogique, sur le savoir. Alors que dans les SED, hein, on peut mélanger du service, du savoir, des marchandises, tout est possible. Donc nous, c'est un échange spécifique. On ne compte pas du tout, il n'y a pas de monnaie.
Voilà, ça c'est super important. Ce qu'on critiquait hier dans les systèmes d'échange locaux, c'est qu'il y avait cet aspect de comptage et d'évaluation. Et surtout, ce serait dans la marchandise encore OK, mais surtout de l'évaluation des services. C'est très agréable et ça rentre à fond dans le jeu du système capitaliste, multinational et compagnie, qui nous vendent du service maintenant à longueur de temps.
Ouais, mais en même temps, dans l'étude que j'ai fait, ce que j'ai vu, c'est que les sels qui fonctionnent depuis longtemps, au bout d'un moment, ils disent on compte plus. Ou alors ils disent on compte juste au début pour les gens qui arrivent, pour leur faire comprendre le système. Et donc, en fait, c'est le prétexte. Comme parfois dans le réseau d'échange de savoir, le savoir est le prétexte à l'échange et à l'installation de relations de proximité. Là, du coup, ça devient un prétexte aussi. Et en fait, après, bah, souvent, ce qui marche bien, c'est quand il y a des troquantes, où on se rencontre une fois par mois, il y a un peu de temps bien, on partage ensemble, on fait une troque, on porte tous ces trucs à échanger. Et du coup, les gens, ils remplissent même pas leur carnet. Et dans l'endroit où il y a des carnets, ils ne remplissent pas, puis c'est pas grave, c'est trop comme ça.
Je sais pas, concrètement, vous avez
listes des demandes et des offres disponibles.
Ben, là, dans notre réseau, mais c'est vrai que c'est comme on disait, c'est tout à fait d'un réseau à un autre, selon les personnes qui restent, peut-être
leur style. À part Aubagne, dans les environs, qu'est-ce qu'il existe d'autres comme réseau
Alors, il y a un réseau, il n'y a plus grand-chose sur Marseille, des choses. Mais, alors, il y a un réseau qui est à l'association Place, je ne sais plus, je dois avoir l'adresse à moi, ça. Ouais, c'est les anciens de l'APA, c'est les jeunes de l'APA.
Réel.
Voilà, le réel. Voilà. Sinon, il y a à l'APA, ils essayent de redémarrer quelque chose. Là, il y a au centre social l'Olivier Bleu, ça c'est le quartier noir.
Dans le panier aussi.
Il paraît, mais j'ai entendu dire, mais j'ai pas de contact.
Ouais, ça marche bien.
Ouais, et tu sais, là, tu aurais les coordonnées?
C'est dans le deuxième, je sais pas, où je les ai vus récemment. Une rencontre justement parce que l'APA a organisé d'ailleurs avec nous aussi. C'est-à-dire qu'on a organisé une rencontre dans l'association du 10e arrondissement vers l'échange de savoir.
D'accord.
Et elle était là à ce moment-là, cette personne-là.
D'accord. Et c'est pas à la PS, parce qu'ils essayent de redémarrer un truc à la PS.
Il y avait une réunion il n'y a pas longtemps sur justement des projets, des projets de réseau sur Marseille. Alors c'est peut-être un des...
Ben, je ne sais pas si c'est entre c'est des rencontres interassociatives ou des échanges de savoir entre associations. On avait commencé petit, quoi, sur le deuxième arrondissement de Marseille. Donc, il y a eu une dizaine d'associations qui sont venues. On a fait sur les financements. Échanger des savoirs sur les financements. Chacun était venu avec ce qu'il savait au niveau de diverses sources de financement, que ce soit subventions ou les cigales, des choses comme ça. Enfin, mais bon, c'est difficile parce que il n'y a pas encore vraiment le réflexe d'échange de savoir, il n'y a pas encore vraiment le réflexe de réseau, c'est encore, moi je trouve, c'est encore pas dans les mœurs.
Est-ce que vous faites de la promo? Moi je ne connaissais pas du tout, hein, c'est en grattant un petit peu. Est-ce que vous faites vraiment un peu de pub autour de votre.
Pas assez, et ça c'est un constat aussi que j'ai fait dans cette étude, hein, c'est pour tous les mouvements c'est la même chose. Bon, par exemple, moi je suis sur mi-temps aujourd'hui, hein, sur la coordination, parce qu'on ne peut pas trouver du fric pour plus. Donc aujourd'hui, à part de répondre aux demandes, parce que mon travail est double, il est de promotion de la démarche, mais aussi de coordination et d'évolution à l'interne de ce qui existe. Donc aujourd'hui, sur mi-temps, je vais répondre en créant des formations pour les demandes des associations adhérentes. Je fais quelques interventions, quelques formations pour les travailleurs sociaux, mais je n'ai pas le temps de faire de la com. Et du coup, il y a eu un temps qui marchait bien parce qu'on était médiatisé, comme les selles. Hein. Quand j'ai fait cette étude, j'ai vu la même chose, à 5-6 ans d'écart sur l'évolution. Donc une grosse période de médiatisation qui correspond à un trou, hein, d'animation, de quartier, notamment tous les travailleurs sociaux collectifs, les conseillers en économie sociale et familiale qui se retrouvaient en pénurie d'outils. Hein, je ne cherchais pas les méthodes, les méthodologies, mais juste l'outil. Oh, ben c'est super. Des fois, ça marchait quand même, hein, parce qu'ils faisaient. Puis après, ben, l'outil réseau d'échange savoir, là, ils disaient c'est un outil, ben, c'est bien, nous, on ne peut plus faire des cours de cuisine. Voilà. Donc, on a vécu ça, c'est-à-dire une croissance liée à la médiatisation, parce qu'avec des retombées, hein, et après, une phase de stabilisation. Et malheureusement, à des niveaux bas. Et les selles, ça fait pareil. Et les cigales, hein, qui sont plus anciennes, c'est pareil. Aujourd'hui, hein, les cigales, c'est ces systèmes qui permettent d'épargner de l'argent de manière solidaire et d'accompagner des projets.
En Afrique, notamment.
Ça, non, ça c'est en France. Les cigales, ça se fait en France. En Afrique, c'est plus la tontine. Hein.
Oui.
Et là, les cigales, c'est. On met de l'argent qu'on prête après dans le capital d'une entreprise solidaire et on apporte de l'accompagnement. C'est une idée géniale, mais aujourd'hui il y a plein de cigales qui ne trouvent pas de porteur de projet pour donner l'argent et le conseil qu'ils donnent. Alors qu'on sait qu'il y a plein de porteurs de projet qui galèrent. Donc aujourd'hui on est dans ça. Les écoles freinées, c'est le même principe. Il y a une stabilisation depuis des années du nombre d'écoles ou de classes freinées en France. Et alors que toutes ces expériences restent pertinentes, questionnent clairement le système. Mais voilà, on est dans une pénurie de lieux.
Est-ce que c'est un blackout des médias volontaires, à votre avis, ou est-ce que c'est vous vraiment qui ne faites aucune publicité?
Ben, je crois que comme c'est des expériences qui sont assez marginales, il n'y a pas de fric pour... donc c'est sur des temps bénévoles que c'est fait la promotion, parce qu'il n'y a pas de fric. Si on tombe, nous par exemple dans le réseau d'échange de savoir, on a une fondatrice qui était assez médiatisée et qui aimait bien ça, donc qui a écrit des bouquins. Donc chaque fois qu'elle sortait un bouquin ou qu'elle allait à une émission, il y avait des retombées en cascade, parce qu'un numéro du national qui renvoie sur les réseaux locaux. Mais voilà, si on n'a pas une personne qui a ça dans, hein, qui a ce côté charismatique en soi, après c'est vachement lourd, hein, en termes d'organisation.
Et est-ce que votre mouvement a été à un moment de son existence? Il est né quand
71.
Dans l'idée. Et après, la première structure du mouvement, c'était la fin des années 80. Le mouvement avec une quinzaine de réseaux qui se sont regroupés, principalement en Ile-de-France. Donc c'est une histoire assez courte, hein, avec un gros accéléré, hein, puisqu'on est passé de la fin des années 80 au milieu des années 90, on est passé à 500 réseaux, en démarrant à 15 réseaux. Voilà un truc très impressionnant. Ouais, il y avait une idée derrière. Mais...
Oui.
La
licence
des réseaux.
Oui, est-ce que soit votre création, est-ce que vous avez été parrainé, grosso modo, entre guillemets, par déjà une institution ou une grosse association, est-ce que vous êtes issu d'un monstre?
Non, c'est une génération spontanée, hein. Quasiment, oui, c'est, de toute façon, c'est le seul mouvement d'éducation populaire. Il y a ATTAC aussi, hein, qu'on peut considérer comme mouvement d'éducation populaire. Et sinon, jusqu'à ATTAC, c'était le seul mouvement d'éducation populaire qui était né dans les 30 glorieuses, après de 70 à 65 à 85. Ça fait 20 ans. Mais non, c'est une génération spontanée, issue d'une idée comme ça. Hein, c'était le moment des réseaux, c'est le moment où le mot réseau est venu à la mode, on a commencé à appréhender ce que c'était la gestion de la complexité.
Et le fait de ne pas utiliser l'Internet, est-ce que c'est. Est-ce que vous le revendiquez? C'est revendicable. Hein, ou bien est-ce que c'est parce que vraiment vous trouvez que vous n'en avez pas besoin? Ou bien est-ce que c'est parce que vos membres ne l'utilisent pas? Quel est le.
Mais pas encore assez formé.
C'est ça, c'est quand même.
On a la volonté de le faire. Moi, je veux dire, je viens de me retrouver sur Draguignan, je suis dans les balbutiements de l'Internet, et c'est vrai que j'aimerais avoir un contact très, très rapproché avec Aubagne, comme avec Avignon, quoi. Donc, j'ai cette volonté, quoi.
On peut dire qu'Internet, oui, est un fabuleux outil, hein. Du fait de sa. De son coût, c'est surtout ça.
Ouais.
C'est tout. Parce qu'effectivement, quand on passe ensuite sur Internet, il y a plein d'autres problèmes qui se greffent, notamment les écoutes espionnes, entre guillemets, voilà, éventuelles ou pas.
Alors, clair, dans cette question aussi, c'est que les réseaux d'échange de savoir comme les systèmes d'échange locaux, c'est un fonctionnement local. Et ce qui fait que ça marche, c'est bien la qualité de relation qu'on arrive à créer.
Oui, c'est pas l'exemple de la dame de Draguignan. Un peu à l'écart peut-être d'un centre d'échange de savoir, au lieu de téléphoner de se payer des factures de France Télécom énormes par Internet, effectivement, ça c'est un outil quand même relativement agréable.
La réalité dans les adhérents des réseaux, hein, sur la région, aujourd'hui, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup qui se connectent à Internet. Mmh. Donc peut-être ça donne aussi une image...
Moi, franchement, à la limite, justement, on en parlait hier, quand on a parlé de commerce équitable et des sels, à la limite, l'intérêt est effectivement local ou micro-local et presque de quartier. Donc, je suis assez favorable. Mais c'est vrai que les gens qui vivent à la campagne, qui sont un peu éloignés les uns des autres, c'est quand même un outil intéressant pour eux. Quoi. Pour les urbains, je vois pas trop.
Pourtant, le mouvement de réseau d'échange de savoir fédéral a des outils sur Internet.
Pas grand chose, ils sont en train de refaire un site, mais c'est pas grand chose. Non, il n'y a assez pas de.
C'est surtout un moyen d'information, quoi, juste des faux.
C'est une vitrine.
Voilà. Donc, plusieurs fois, sur la région, on a eu des projets, tout ça, de se mettre un peu en réseau, juste pour donner nos infos. Mais bon, après, vraiment faire des échanges sur Internet, ça paraît difficile.
Ben, le réel, justement, ce qui est bizarre, c'est que eux, c'est que Internet. Hein. Parce que bon, au départ, ils ne voulaient pas faire que Internet, évidemment. Mais bon, les gens qui ont fait ça, je ne sais pas, ça s'est un petit peu démobilisé. Ce qui fait qu'en fait, il ne reste plus qu'une seule personne qui s'en occupe, et un site Internet. Et le site Internet, il marche un peu tout seul, et les rencontres, il n'y en a plus beaucoup, quoi. Mais bon, ça marche quand même, quoi. Et là, il n'y a que Internet. Donc je pense que allier les deux, c'est-à-dire les rencontres, parce qu'il en faut, évidemment, je veux dire, sans rencontres, ça ne marche pas. Et puis, Internet, comme étant quelque chose de complémentaire qui fait le lien le plus, quelque chose en plus, quoi, par rapport aux rencontres. C'est un prolongement.
Ouais, mais le Internet, c'est un outil d'information et de communication de l'information, mais c'est pas. C'est que ça.
Mais Internet, c'est un outil d'échange.
Oui, mais si tu veux, c'est. Clairement, dans ces projets-là, ce qui marche, c'est la relation, c'est pas le.
Oui, ça, c'est inévitable. Mais le fait est que réel, il marche quand même, alors qu'il n'y a que Internet.
Oui, oui.
Bah, il marche très mal. Ça, je. T'as vu hier.
Non, mais si, ça marche.
Écoute, je ne sais pas. Ces gens-là sont incontactables, ils sont pas capables d'amener. Ils sont à deux pas. Ils se réunissent à deux pas de la rue où on était. Ça fait un mois que j'essaie de le contacter. Ils sont pas capables d'envoyer quelqu'un. Ils me disent, nous sommes plus ou moins en décomposition ou en restructuration, etc.
Ah, tu veux dire joindre la personne qui s'en occupe ? Ah oui, là, effectivement, c'est difficile.
Non, mais je voulais simplement quelqu'un qui vienne parler du groupe. Quoi, c'est
mais il y a des échanges.
C'est le réel. Le réel.
Il y a des échanges qui se font quand même.
Oui, les échanges, oui, d'accord, j'imagine, d'accord, mais enfin, c'est dommage.
Il n'y a qu'une seule personne qui s'en occupe, elle n'est pas très disponible, et effectivement, c'est très difficile de la joindre. Ouais,
ouais, ouais. Ce qu'il y a aussi, c'est combien. C'est pas comme. Les celles, c'est les personnes qui se contactent, elles ont les numéros, enfin, tout un système. Alors que les réseaux, c'est vraiment. On met en avant quoi, la médiation, la mise en relation. Donc, par Internet, ça paraît difficile, quoi. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui fasse la relation.
Apparemment, il faut qu'il y ait contact physique, au moins de visu,
ouais,
pour savoir.
Après, ça n'empêche que.
Me semble.
Voilà, pour un échange pratique.
Le réel, en fait, ils ont tenté de faire un mix entre le réseau et le sel. Hein, au début, quand ça a commencé à la place, moi, j'aurais fait les deux à côté. C'est aussi tranquille et ça a permis de ne pas mélanger les genres. Ils ont essayé de faire un mix entre eux. Mais c'est bien. C'est ça l'intérêt, c'est d'inventer des choses. Hein. Il n'y a pas de modèle. Hein, donc, ils sentaient ça. Hein. Et c'est vrai qu'il y a des périodes où ça tournait très bien. Après, c'est une question d'animation. Donc, il y a toujours des hauts et des bas dans ces groupes-là parce que c'est pas institutionnalisé. C'est ça, de mon côté. Là, il n'y a pas de. Et les endroits où c'est institutionnalisé, c'est très chiant parce que c'est inscrit, il y a des centres sociaux où c'est. Un secteur d'activité du centre social. Et du coup, bien sûr, ça va tourner parce qu'il y a quelqu'un de payé pour faire. Mais ça n'a pas de sens, quoi.
Et puis, ce que je veux dire, c'est que lui, il a développé des outils pour ça. Ce serait intéressant de voir s'il ne peut pas justement faire profiter des outils qu'il a développés pour d'autres réseaux d'échange, je ne sais pas.
Oui, nous allons donc le capturer, le rapter et l'amener pour qu'il nous parle.
Parce que sinon, s'il est toujours sur Internet, il n'y a aucun intérêt.
On ne va pas aller faire le siège chez lui. On porte la deuxième buvette de punch quand même.
Deuxième cuvette. Non, c'est la deuxième. Questions?
Moi, j'aimerais demander, en fait, si on crée un réseau d'échange et de savoir, est-ce que la première chose à construire, ce n'est pas que les participants soient eux-mêmes sensibilisés à l'idée de réseau, de sorte à ce que le projet puisse durer plus longtemps. Donc commencer par informer les gens sur comment entretenir un mouvement social, comment toucher le plus de public possible, sans sortir du cadre qui est un échange de savoir, de sorte à ce que la structure soit autonome avec tous les participants qui sont en situation d'offre et en situation de demande.
Toi, tu serais où dans un projet comme ça?
Moi, je serais où c'est-à-dire.
Si tu poses une question comme ça, c'est que tu t'intéresses en tant que personne, qu'être social.
Moi, je serais plutôt dans un réseau de proximité, par exemple, dans un quartier, dans l'idée de, par exemple, si on commence à traiter d'affichage, d'aller faire de l'affichage dans la rue, ou dans l'idée de créer des repas de quartier. Je serais un bénévole qui participerait à consolider l'idée, en fait.
Avant, mobiliser.
Essayer de rassembler un grand nombre de personnes pour avoir une base sur laquelle construire.
Si tu es un des fondateurs et que tu le sens comme ça, c'est comme ça que ça se fera. Ce que je veux dire, hein, quand je t'interrogeais, c'est parce qu'en fait, c'est ça. Les fondateurs, ben, il n'y a pas de moule de fondateurs de réseau. Donc les gens, ils ont leurs idées quand ils font un réseau. Et donc, ils s'allient de personnes qui ont les mêmes idées qu'eux. Et en général, donc, ils montent le projet comme ils l'entendent. Mais l'acte fondateur, souvent, il va avoir la vie dure et il va donner une image du réseau qui n'est pas prêt de changer. Donc je veux dire, c'est pas neutre. C'est en fonction des personnes qui ont envie de démarrer. Quoi. Donc il n'y a pas de règle. Mais si tu veux, s'il n'y a personne qui a envie que le projet dure 10 ans, pourquoi tu veux que tu mettes au départ des méthodes en place pour que ça dure 10 ans?
C'est un choix stratégique, en fait.
Même pas stratégique, c'est le désir des gens qui font au moment où ils le font.
Non, je capte.
La structure est très souple. Il y a une charte des réseaux d'échange de savoir. C'est en 10 articles. C'est assez mal fichu, assez mal écrit. Mais c'est assez souple et assez ouvert. Et en dehors du fait que c'est démonétisé, qu'on est dans la réciprocité, que tout le monde doit être offreur et demandeur. Chose importante, c'est que tout le monde doit à terme participer à l'organisation, à la co-organisation collective de ce projet. Voilà. Mais même toutes les phrases dans la charte, elles sont dites comme des espoirs. Il faudrait tendre vers. Donc c'est pas une charte très...
C'est bien.
Oui, c'est bien. Et d'ailleurs, au moment où il y avait des problèmes au niveau national, à un moment, il y a des gens qui avaient l'idée de dire « On va se faire piquer l'idée, il faut qu'on dépose réseau d'échange réciproque de savoir à l'INPI. » Et c'est une période de crise, donc alors on se rabattait sur des trucs. Ça ne s'est pas fait, mais même s'il avait fait, ça n'aurait pas changé grand-chose.
Vous faites réseau d'échange de savoir sur quel coin?
Ah oui,
moi, je suis de Nice, mais sinon, c'est Aubagne, le réseau d'Aubagne.
Aubagne, oui.
La cité Charente.
Et à Nice, alors, il y a aussi des réseaux.
À Nice, il y a un seul réseau, là, ouais, et qui est issu d'une association d'éducation populaire, Culture et Liberté, qui se sont bien fourvoyés sur les dispositifs de formation et d'insertion en fin des années 80, puis des années 90, dépôt de bilan, et puis qui se disent après, les gens, c'est quand même des militants, même s'ils s'étaient fait avoir, être formateurs, machin. Nous, on n'a pas envie que ce projet meure, mais on ne veut plus faire d'usine à gaz. Donc, on remonte une association de militants pour faire des choses qui intéressent les citoyens et nous en premier. Et donc, ils ont remonté ça. Il restait un salarié parce qu'il y avait des activités de français qui continuaient, des cours de français pour étrangers. Et sinon, ils ont dit, un des axes qui a monté un réseau d'échange de savoir, ça serait pas mal. Entre autres, c'est repas de rue, il y avait plein d'idées. Et ça a démarré comme ça.
Mais il y en a à Marseille?
Il n'y en a pas beaucoup à Marseille, on disait ça tout à l'heure. Et il n'y en a pas beaucoup, mais on espère quand même en discuter.
Il y a un projet sur l'onzième, aussi, l'onzième quatrième, je crois.
Alors, ça fait quoi ça en sportif?
Deuxième, c'est vraiment près de l'Audobagne.
D'accord.
Et quatrième aussi, je crois, c'est
une vallée fructueuse. Ouais.
Il y a aussi la Spen, je confonds toujours, la Spen Mirabeau. La
Spen Mirabeau, ouais. Oui, je sens toujours. Ouais.
Il y a un livre qui est vraiment super bien, que je recommande, qui s'appelle des livres de Claire Hélène Suffrême. Ça s'appelle Appel aux intelligences. Ça parle de. Son histoire, c'est un des premiers livres qu'elle a fait, je crois. Non, avant, hein, enfin, un deuxième ou troisième. Et ça parle de son histoire, son expérience dans les. Dans... C'est la personne qui a initialisé les réseaux d'échange de savoir. Et elle parle de son expérience en tant que institutrice. Hein. Et après, les premiers échanges, les premiers réseaux d'échange de savoir qu'elle a fait, moi, les Parisiens.
Voilà.
Et, c'est trop bien, en fait.
Excusez-moi, sur Toulouse, il y a trop de réseaux. Mais alors là, j'aurais pas les coordonnées parce que c'est pas ma région. Mais je peux donner les coordonnées du national, ils te donneront ça sans problème.
Moi, je suis Toulouse.
Ouais, il y en a 34. Il y a eu des liens notamment avec les réseaux catalans, parce qu'il y a des réseaux en Espagne aussi.
Ouais,
ils ont fait des trucs transfrontaliers, là, bien sympa.
Toulouse, ils sont allés, on était en contact, ils sont allés au Maroc.
Oui, vous avez fait un échange.
On devait.
Notre association est rassemblée à.
Oui, il y a un mouvement national qui coordonne l'ensemble. C'est pas une structure hiérarchique, on n'est pas une fédération. Mais il y a une tête de réseau national. Donc si je te donne ces coordonnées, tu peux appeler pour savoir les adresses du tout.
Non, c'est mon cher Bessie, je ne connaissais pas trop le truc, on m'a expliqué le fait. Maintenant, entre le devoir de savoir, ce que j'ai compris, quoi, c'est que... C'est pour les gens pauvres,
c'est pour tout le monde,
pour les illettrés, pour
je sais ouais, pas, aussi.
C'est pour les gens qui arrivent dans ce pays, quoi, qui sont clandestins ou quoi que ce soit, qui n'ont pas de papier, qui sont formés comme ça, apprendre le français, apprendre l'anglais, quoi que ce soit.
Bah, je te donne un exemple.
Ils ont pas les moyens, quoi.
Je te donne un exemple. Au réseau de Nice, en dehors du réseau, puis c'est une association qui fait d'autres choses. Il y a des cours de français pour étrangers depuis des années. Notre truc, c'est qu'on coordonne une équipe de bénévoles. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un salarié qui coordonne et une équipe de 15 formateurs bénévoles. On forme 300 personnes par an en français. Et à côté, il y a le réseau. Il y a des gens qui ne peuvent pas venir aux heures de cours. Ils peuvent venir au réseau d'échange de savoir. Mais là, c'est pas pareil, c'est la réciprocité, il faut qu'ils offrent quelque chose. Et du coup, ça nous amène une richesse Parce que les gens, ils arrivent et ils offrent, bon, pas forcément la cuisine, parce qu'il y en a marre, même si la cuisine, les gens qui arrivent étrangers qui offrent la cuisine, c'est bien, ou la broderie, hein, ça va un peu. Mais bon, ben, il y a un cubain, prof de salsa, en plus il a fait des ravages parce qu'il est un beau gosse. Hein. Je veux dire, le cours de salsa, ça marchait toute l'année. Il y a plein de choses comme ça. Mais ça, c'est le hasard des rencontres. À Nice, c'est comme ça, mais ailleurs, ce sera d'autres choses. Mais le principe, c'est ça. C'est la variété qui permet des rencontres inattendues.
Parce que, en fait, que je vous en parlais, de vouloir savoir tout ça, c'est de passer au reste du cœur. Le reste du cœur, à un moment donné, ils avaient fait un truc comme ça pour les gens pour apprendre à lire, à écrire. Je ne sais pas si ça partait de sa solution ou pas. Mais ben, je sais qu'ils faisaient ça. Quoi. Donc l'idée est un peu de là aussi. Hein.
Non, là, là, il y a échange, si tu veux.
Ouais. C'est un
il y a échange, ce que tu as entendu.
C'est pas...
Échange entre deux personnes. Et on
c'est
essaie
d'échanger.
À égalité. À égalité. On je t'apprends le français, tu m'apprends ta langue, par exemple, ou autre chose.
Ou il apprend à quelqu'un d'autre et toi tu
roules. C'est pas de la charité. C'est ni de la charité, ni de la... C'est autre chose.
J'apporte quelque chose.
C'est un
échange normal. C'est un échange normal.
Tout le monde peut apporter quelque chose, on n'est pas simplement demandeur et consommateur.
Et là où c'est révolutionnaire, justement, c'est parce que nous, on dit, on revendique que justement ceux qu'on dit qui ne savent rien, ils ont des savoirs, et moi qui m'intéresse personnellement et qui intéresse pas mal de gens. Et du coup, si c'est de réhabiliter tous les savoirs. Parce qu'on parlait de la femme arabe, c'est facile de lui faire offrir les galettes. Et par contre, moi, ça m'intéresse plus de lui faire offrir comment elle gère une famille de 10 enfants, où elle est toujours accueillante avec toutes les personnes qui arrivent, le thé est toujours prêt, hein, donc toute cette polychronicité, plein de choses, et là il y a des savoirs autrement plus intéressants que de savoir mélanger la farine de miel et des trucs pour faire la bonne pâtisserie comme la grand-mère. Donc là, clairement, les pauvres, on est tous pauvres de quelque chose, et donc on est tous riches aussi de quelque chose. Donc là, nous, on travaille que sur les richesses. Y a des gens qui sont pauvres matériellement aussi, mais on s'en fout, quoi. Il y a un pauvre qui fait chier même s'il est pauvre. Hein. Parce que le principe aussi de l'échange, c'est que la médiation, ça permet ça.
Ça, c'est très beau.
Absolument.
Des riches aussi.
Et puis, à un moment, on a eu des riches parce que il y a deux ans, on avait donné des cours de français à des Brésiliens de l'OM, les profs Marcelino et Adriano. Ils étaient venus à réseau.
Et
des riches, hein, ils auraient
pu
payer des cours.
Ils
ne savaient pas parler français. Et gratuitement, on leur a. Bon, ils auraient pu me donner des pâtes de l'OM, mais bon.
Oui, c'est vrai.
On n'a pas mis
le
mais si tu veux.
Qu'est-ce qu'ils proposaient de jouer au foot?
Donc en fait, quand ils sont venus, il n'y a pas eu échange de savoir. Quoi. Ça veut dire
pas vraiment eu échange.
Non,
mais pas forcément.
Voilà, il ne faut pas attendre toujours. Moi, réseau, ce que j'aime bien, c'est que je donne, mais je n'attends pas forcément. Tu vois, si on
des fois, il y a un temps où on va plus donner, un temps où on va. Bon, bien sûr qu'on essaie de faire l'équilibre.
Comme je dis moi, peut-être c'est pas la pensée de tout le monde, mais on va apprendre, vous donner. Mais si personne ne vous donne après, le côté de vous donner, parce que vous n'avez plus donné après.
Alors non, parce qu'il y a autre chose aussi, ça c'est un autre truc, c'est un principe presque pédagogique. Toi, je sais pas quel métier tu fais, mais un truc que tu sais faire, tu le sais le faire pour toi. Mais si tu es obligé de me l'apprendre à moi, tu vas être obligé de réfléchir comment tu le fais, parce que moi je sais pas le faire, toi tu sais le faire, même si tu l'as pris sans te rendre compte, que c'est ton père qui t'a montré. Et du coup, tu vas te créer un savoir sur ton savoir pour me le transmettre. Et du coup, ton savoir de, je sais pas, si tu fais de la maçonnerie, par exemple, ben, il va devenir beaucoup plus fort parce que non seulement tu connais la maçonnerie, mais tu connais comment apprendre la maçonnerie. Et quand tu sais comment apprendre la maçonnerie, tu sais comment apprendre autre chose avec. Hein. Et du coup, même dans l'échange, si c'est toi qui m'offres, tu apprends autant que moi. Parce que tu structures ton savoir pour toi-même pour pouvoir le transmettre. Et du coup, on retrouve ça, par exemple, à l'école, tant qu'on fait des échanges de savoir dans les écoles. Quelqu'un qui est faible en maths, ça va être un bon offrant en maths quand il devient bon. Parce qu'il sait à un moment qu'est-ce que c'est qui lui a créé le déclic et qui lui a permis de passer de très mauvais à d'un coup à tout comprendre. Alors que celui qui a toujours compris les maths, il ne sait pas les problèmes qu'on peut avoir pour comprendre les maths. Donc du coup, c'est ceux qui sont pas bons, là, qui ont été pas bons, qui vont pouvoir
vous reprendre. Voilà.
Et un mec qui va être mauvais en maths, mais qui est bon en skate et qui fait des super trucs et qui sait apprendre à tous ses copains, qui sait organiser des rencontres devant son immeuble. Là, il y a des savoirs. Et lui, on lui dit juste qu'il est nul parce qu'il est mauvais en maths. Par contre, il a déjà tous les savoirs de la vie sociale et de l'organisation sociale et collective. Et bon, comme l'éducation nationale, c'est un vaste système de broyage, hein, si tu n'es pas dans le moule. Lui, comme il n'est pas bon en maths, qu'en plus il ouvre sa gueule, ben voilà, tu vas passer tout le reste sous silence, alors qu'il est riche de tout ça. Et on s'en fout des matins. Et de toute façon, après, s'il fait du business, il n'y a pas besoin de. Il s'est planté, il n'a pas besoin d'être en maths et de faire des petits mots pour vivre, pour avoir une vie sociale et collective. Hein. Parce que derrière aussi, dans les réseaux d'échange, il y a ça, il y a la dimension collective. C'est qu'on essaie de faire société autrement, mais collectivement. Quoi. Parce que sinon, elle veut dire Internet, c'est ça aussi la limite d'Internet. Tu fais dans le grand marché, ok. Hein. Allez, tu mets tout à l'heure sur un grand marché. Tu dois avoir la réciprocité. Par contre, ça peut marcher aussi, hein, tu mets à disposition. Ouais. Ben,
t'as pas de problème avec Internet, parce que tout le monde n'est pas encore Internet.
En plus,
c'est ça le problème. Parce que le problème, vous avez faire des trucs, c'est vachement surveillé. C'est même pas sur une carte, vous avez des gens qui sont sur Internet pour pister sur tout.
Surtout entre particuliers. Voilà, c'est entre structures, déjà les structures, elles peuvent facilement avoir Internet que des particuliers.
Quand je dis vaut mieux, enfin, bon, je dis comme ça, je dis dans les campagnes, tout ça, vous concentrez les Internet, parce que les gens qui sont en campagne, ils ne connaissent rien. Dans la campagne, c'est pas qu'ils ne connaissent rien. C'est qu'ils vont les voir habillés comme ça, ils vont se poser des questions, les types. Il n'y a pas, dans le même sens. Donc ils n'ont pas le sens du savoir. C'est-à-dire qu'ils vont vous apporter quelque chose, mais s'ils vous apportent quelque chose, s'ils vous sentent bien, si on ne vous rentre pas, c'est ça la campagne.
En même temps, il ne faut pas croire que Internet, c'est le. C'est le remède miracle.
Non, c'est pas la panacée universelle.
Hein. Non, j'ai un pote qui est responsable de la Confédération paysanne dans mon département. Il refuse l'ordinateur parce qu'il veut pas d'ordinateur. Il a un fax, un téléphone. Il coordonne très bien son réseau et aussi bien qu'avant. Hein. De toute façon, lui, il n'a pas d'urgence. Donc, s'il y a une urgence, le téléphone marche. Il va organiser une manif dans les 4 heures. Mais sinon, en fait, il n'y a pas. L'urgence, c'est l'urgence qu'on se crée. Hein. Internet, ça nous remet un peu plus à une dynamique du direct. Il fait tout le temps en direct live. Hein. Mais il y a plein de choses dans la vie où on n'est pas au sein. Moi, j'ai un portable, il doit avoir 15 ans. Je veux dire, je m'en sers pour des rencarts, mais je n'ai pas besoin de trop jouer, il est tout le temps éteint. Bon, par contre, j'utilise le fait que ça me sert. Hein, si j'arrive à la gare de Nantes, il y a 2 semaines à la gare de Nantes, j'ai rencard avec quelqu'un, mais c'est bien d'avoir un portable. Sinon, après, on n'est pas obligé de se laisser imposer le rythme ambiant. Hein. Et je crois que c'est peut-être la première chose qu'on a à contester, se donner le temps. Des fois en réunion, parce qu'on organise, hein, en réseau, ça s'organise, c'est pas tout seul. Et les gens disent, ah, on passe beaucoup de temps d'organisation. Ben ouais, mais la vie, c'est ça, c'est s'organiser.
Ouais, c'est s'organiser, ouais.
Voilà, on a un système de consommation où on prend de la thune parce qu'on est un système commercial, où on prend des subventions parce qu'on est dans un système associatif. Et si on veut créer des trucs un peu dans la réciprocité, ça prend du temps, ça se fait pas tout seul. Et ça peut se faire par contre sans violence, hein, tout en douceur. Et il faut prendre le temps. Hein. Là, ouais, si on voulait monter un réseau d'échange de savoir là, ce soir, on prend le temps, on prend 1h30, on dit faites une troisième bassine de punch, et puis.
Parce que vous êtes introduit à la combien ? On a la première. Hein.
Ah. Bon, s'il en reste encore une, on peut monter un réseau ce soir.
Voilà. Ouais. 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 Je suis parti d'un réseau, c'était Postpoint Réseau, ça a commencé à éviter. C'était à Bordeaux, c'était Utopia, je ne sais pas si vous connaissez.
Utopia ?
Ouais, c'était pas un réseau, c'était commencé à être un réseau. En fait, tout a été massacré par rapport à des manifestations ukrainiennes. Parce que nous, c'était pour les SDF. Il y avait tout ce qui était dans la rue, tout ça, on faisait tout pour eux. Pour les gens même qui arrivaient des pays étrangers, tout ça, qui ne savaient pas dire pour ça, on faisait tout pour eux. Mais moi, la manifestation, ça fait que Juppé, c'est le maire de Bordeaux. Donc, ça fait que lui, il a tout cassé. Quoi. Il a fait la loi anti-bivouac, il a fait la loi ceci, la loi cela. Donc on n'a plus jamais rien faire, donc on a été déscoudé. L'utopie avait été déscoudée.
Non mais là c'est un peu l'intervention qui
Là
on est quand même dans la manière dont tu le décris, la logique plutôt de donner aux gens, quoi. Hein. D'aller donner aux gens, mais pas.
Mais il n'y a pas de réciprocité.
Il n'y a pas de.
Social, plutôt du social que du.
Voilà.
Non mais c'est bien, c'est intéressant aussi de faire des trucs comme ça, mais nous à Marseille quoi, enfin, le problème qu'il y a à Marseille, il n'y a pas d'argent dans les caisses.
Parce que
nous
c'est une belle population,
on est
ouvert à
ce type. Moi je dis dans les caisses, une fois je suis allé dans, je ne sais pas si vous connaissez la mission locale ou quoi que ce soit, je demandais une aide, et le mec il me voit dans moi en face, il me dit bon il n'y a pas d'argent dans les caisses, qu'est-ce qu'on veut que vous fassiez avec lui.
Mais justement, l'échange de savoir,
il n'y a pas besoin d'argent.
Il
n'y a pas besoin d'argent. J'ai pas besoin d'argent. Le mec, directement, il m'a dit, il m'a dit, il n'y a pas d'argent. Je ne demandais pas ça. Il n'y a pas moyen d'arrangement, d'hébergement, ou quoi que ce soit, ça m'a de l'argent. Non, c'est que moi, monsieur, il m'a informé qu'il n'y a pas d'argent à faire, c'est pas possible. Après, quand vous avez des employés, moi je sais pas, quand vous êtes dans un foyer, c'est un peu décuré. Dans la Bible, il n'est pas marqué « Viens mon fils, on tombe dans la main et demande 1,50 €. » Ça n'existe pas, c'est pas vrai. Enfin, je parle, je ne suis pas de christianisme, je sais pas, de religion, mais non. Moi, ça me cœur de mon côté, quoi. Vous allez dans un... C'est un truc pour les SDF, pour les... puisqu'ils sont sans papier, enfin, sans papier. Parce que vous ne rentrez pas, vous n'êtes pas papier, vous ne rentrez pas. C'est, on vous demande 1,50 €, on dit que c'est chrétien. Mais ça marque Saint-Jean, je ne sais plus quoi, c'est un truc chrétien, il y a l'église, il y a la messe et tout. Le mec, il vous dit, viens mon fils en demandant, en tendant la main, demandez 1,50 €. Je ne comprends pas le truc. Quoi. Soit c'est, vous faites une assoce pour que tout le monde, tu donnes, soit c'est pour faire une boutique et voilà, je sais pas. Moi je pense que c'est un peu dégueulasse.
Si c'est qu'un euro 50, c'est pas très grave, faudrait savoir qu'est-ce que c'est que c'est 1,50 €. Parce que ça veut rien dire.
Il y a 400 personnes qui rentrent dedans, on multiplie 1,50 €.
Mais c'est quoi, c'est quoi un droit d'entrée hein?
Non, c'est fort bien, c'est un foyer pour
c'est ce qu'il y a. Oui, mais c'est quoi? C'est quoi un droit d'entrée hein?
C'est pour dormir.
Ah, pour dormir.
Parce qu'il y a chaque jour, il faut payer.
À chaque jour, il faut payer.
Il y a Jésus, je sais plus quoi. Et le mec qui fait comme ça, mais c'est le mec qui fait la mendicité.
Sur la fraise,
c'est quand sur la fraise, parce que c'est le mec qui fait la mendicité qui demande l'argent.
C'est des mendiants.
C'est pas le père, il fait comme ça, le mec sur la tête. Donc moi je comprends pas d'un côté, je dis bon, peut-être ils ont besoin d'argent pour tel, mais bon, je dis en principe, christianisme, le pape, tout ça, ils sont riches, ils ont assez d'argent, ils peuvent ouais. Se permettre de faire des.
Bon, c'est vrai que c'est un peu hallucinant de devoir payer pour passer une nuit.
C'est la charité chrétienne.
C'est la charité.
Il dit que le mec n'a pas d'argent, il arrive ici, bon, il n'a pas d'argent pour soi. Donc
peut-être pas généralisé parce que souvent ils proposent des choses gratuites.
C'est des individus après qui sont.
Oui, c'est différent.
Je dis comme ça.
Oui, non, mais c'est bien de savoir qu'il y a un endroit à Marseille où. Catholique où il faut payer pour avoir une nuit, ouais.
C'est pas un truc légal.
Vous pensez
dans les auberges jeunesse, il y a une taxe d'hébergement.
Non, là je pense que c'est plus un asile de nuit.
Ah non,
Nice,
c'est des gens qui n'ont pas d'argent du tout. Ils sont dans la rue et qui veulent dormir, je pense.
De toute façon, c'est des systèmes quasi pénitentiaires. Aujourd'hui, ça m'a été écrit.
Donc du coup la question sur les réseaux d'échange de savoir qu'on peut se poser, c'est aussi une question impertinente qui est. On aurait fallu poser. C'est en quoi le réseau d'échange de savoir, ça n'est pas juste rajouter quelque chose, un emplâtre sur les jambes de bois, et puis ne rien changer sur le fond. Et je crois qu'en effet, on pourrait dire que ça ne change pas forcément des choses sur le fond. Le réseau d'échange de savoir, en soi, ce n'est pas un concept, c'est la manière dont on le met en œuvre. Mais sinon, ça peut absolument rien changer, ça peut même renforcer les systèmes de domination, les systèmes d'enfermement. Sous prétexte justement d'avoir une belle étiquette. Donc le réseau d'échange de savoir, le fait de mettre le tampon dessus, ça ne donne aucune garantie dessus. La question après, c'est quelle volonté on a de le faire collectivement, de s'organiser collectivement sur un territoire. Mais sinon, si c'est juste une commande sociale, ça peut être c'est le pompier de service. Hein. Mettez-moi un petit coup de réseau là, mettez-moi un petit coup de.
Le réseau de savoir.
Je suis d'accord avec
je dirais, le réseau des champs urbains, c'est un concept qui est complètement révolutionnaire par rapport, enfin évolutionnaire plutôt, par rapport à la société, parce que on est dans un système de consommation où on pose les individus comme consommateurs à la base, comme ignorants à la base. Or, si on était dans un système où dès la maternelle, on mettait l'école dans un échange de savoir, on apprenait aux gens à s'échanger des savoirs, on deviendrait beaucoup plus riche au niveau savoir, et beaucoup plus riche au niveau aussi savoir-être aussi. Parce que déjà, il y a un truc tout simple qui est que chacun a un savoir au niveau, par exemple, savoir être heureux. Et si on se mettait tous à échanger notre savoir être heureux, on serait déjà mieux, quoi.
En fait, c'est une espèce de conscientisation des choses qui devraient être naturelles, quoi.
Ouais, bien sûr. Ouais.
C'est tout.
Ouais. C'est... Et savoir mourir quand on veut, est-ce que c'est un savoir qui est changeable dans un réseau d'échange de savoir ? Ça, il y a un gars là, qui s'est buté cette nuit dans sa prison. Et ils ont ressorti une interview il y a 7-8 ans où il disait, clairement, le jour si je suis condamné, je sais que je suis condamné, je me supprimerai, il n'y aura pas de problème. Mais j'imagine que ce gars-là avait des savoirs. Est-ce que tu penses que ça, c'est un savoir qui est changeable dans le réseau d'échange de savoir ?
Ouais. Non, c'est pas changeable, je pense pas.
Mais c'est quelque chose qu'on devrait faire spontanément et naturellement. Et le problème, c'est que on est vraiment dans un système où, à l'école, on est dit, dès tout petit, tu sais rien. C'est la maîtresse qui sait. Donc le problème, c'est qu'on n'apprend pas à l'école à échanger nos savoirs. Alors que si on apprenait dès l'école à échanger nos savoirs, on le ferait après spontanément pour n'importe quel savoir, que ce soit un savoir-faire, un savoir-être. On le ferait spontanément. Mais le problème, c'est que on a un système qui, justement, n'a pas envie de ça. Puisque si on fait ça, on casse tous ceux qui sont supposés avoir le savoir et qui nous met dans une position de consommation, de dépendance et de soumission.
Alors moi je parlais pas des grandes questions dans l'absolu, je parlais de la réalité de ce qu'on rencontre les réseaux, c'est que dans le réseau des champs de savoir, tu montes un réseau et tu dis on peut échanger à côté tous les savoirs. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui va offrir quelque chose, et bien dans le groupe, on va dire non, ça on peut pas l'accepter. Alors il va y avoir débat ou pas débat. Ma question c'était là-dessus, c'est-à-dire comment on s'organise collectivement pour décider quels savoirs sont transmissibles et quels savoirs sont pas transmissibles. Donc, par exemple, faire une bombe artisanale, hein, je pense que pendant la résistance, c'est un savoir tout à fait transmissible. Aujourd'hui, dans la plupart des réseaux d'échange de savoir, ce sera un savoir qui sera interdit d'accès. Mais après, il y a des, ça je prends un truc facile, mais après, il y a des savoirs développement personnel. Il y a des endroits où rien ne passe. Astrologie, astrologie, c'est impossible. Donc du coup, moi, la question qui m'intéressait, c'est, en effet, tous les savoirs peuvent s'échanger, mais c'est comment le groupe se construit collectivement des instances de discussion, de quels savoirs sont autorisés et de quels savoirs sont interdits. Il y a des groupes où ces questions ne se posent jamais, mais pourtant, il y a des savoirs qui sont interdits de faire. Et du coup, là, ça m'intéresse aussi d'analyser quel processus fait qu'il y a un consensus alors que rien n'a été dit là-dessus. Souvent, c'est parce que justement, il y a eu un homomorphisme, peut-être, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais les gens qui avaient constitué ça au départ, ils ne se rendaient pas compte, mais en fait, ils étaient sur la même base, et ils étaient partis sur des implicites, mais qui étaient bons, sur des choses qui sont interdites. Et du coup, ils ne se posent jamais ces questions. Mais du coup, c'est un réseau qui est clairement coloré, d'une certaine manière. Et alors, à l'inverse, tu auras des réseaux qui seront très sur l'ésotérique, si on continue l'exemple, et moins sur les pratiques. Et du coup, la vraie question, c'est ça, c'est... Si on se construit collectivement un système pour échanger des savoirs, quel est un savoir on s'interdit ? Il y a quelqu'un qui dit on ne parle pas d'échange cuisine avec un cannibale. Je ne sais pas. Moi j'aurais envie, mais pas un cannibale.
Ah ouais, pourquoi c'est ça intéressant ?
Moi ce que je trouve aussi très intéressant, c'est aussi, d'une part, dans les réseaux d'échange de savoir, c'est comment repérer son savoir. Parce que ça, c'est un bon problème. C'est un genre qui ont plein de savoirs mais qui ne savent pas qu'ils savent. Et donc il y a des outils qui sont mis en place pour apprendre aux gens à repérer leur savoir. Et d'ailleurs en plus ils en sont vachement valorisés, ils s'aperçoivent qu'ils savent plein de choses en
fait. Tu ne serais pas un peu assistante sociale des fois? Tu es pas assistante sociale dans la vie?
Est-ce que c'est un savoir?
Assistante sociale. dans votre vie professionnelle, êtes-vous
Non, mais c'est en général les gens qui parlent de valoriser les autres, c'est les assistants sociaux.
Non, mais non, c'est ce que je constate des réalisations de savoir. Quoi. Je, ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens qui pensent dans cette. Se sous-évaluent. Et grâce au réseau d'échange de savoir, arrivent à se sentir vachement mieux. Parce que d'une part, ils ont repéré les savoirs qu'ils ont en eux, puis en plus, ils s'aperçoivent qu'ils peuvent transmettre à d'autres.
Même des savoirs qui n'ont pas, pas de valeur, qui dans un système normal n'ont pas de valeur. Et du coup, là, qui se rend compte que ce qu'il sait faire, ben, ça vaut aussi, sauf qu'il n'arrive pas à le faire monnayer, ou on ne peut pas le faire monnayer. Mais ça vaut quelque chose. Que les gens sont prêts.
C'est pour ça qu'on ne compte pas dans les réseaux, parce qu'on dit que ce qui fait la valeur d'un savoir, c'est qu'il est demandé. Tu peux avoir un savoir, tu peux estimer un savoir hors de prix, mais c'est la personne qui le demande. Tu deviens ton savoir, il meurt, parce que justement, c'est ça aussi la réciprocité, c'est qu'un savoir que tu n'utilises pas, tu le perds toi-même. C'est dans l'échange, c'est dans la pratique que tu as. Tu as beau savoir quelque chose, et puis bon, si tu n'en fais plus rien, tu le perds. Et c'est souvent les magies de belles rencontres et de belles naissances de personnes dans les réseaux, c'est souvent ça. C'est que d'un coup, ils retrouvent un endroit où, poum, quelque chose d'essentiel pour toi et que tu avais enfoui derrière, d'un coup tu peux le ressortir et en faire une richesse. Et notamment les richesses de... Moi je suis un immigré, j'ai quitté mon arrière de Provence natale à l'âge de 9 ans pour descendre à Ville dans une cité HLM. Donc moi je me sens immigré autant qu'un Nord-Africain ou que n'importe qui arrive. Et je sais par exemple ce que tu dois pour survivre, ce que tu dois oublier. Moi j'ai complètement oublié ma vie de village, je suis parti du village à 9 ans. Et pour survivre, j'étais obligé de partir. T'arrives dans le truc, t'as un immeuble de 12 étages, t'as que des immeubles de 12 étages à côté. Forcément, tu oublies l'endroit que tu vis pour te dire la vraie vie, c'est là, il faut que j'apprenne à vivre là. Mais le jour où tu peux te réapproprier tes racines, ton passé, toute la culture qui allait avec, putain, d'un coup, tu découvres riche d'un truc que t'avais complètement fait disparaître de ta vie parce que c'était des trucs de cutéreux. Moi, et moi, c'est tard que j'ai redécouvert, par exemple, tout le jeu qu'il y avait de pouvoir et de régulation sociale sur la place du village, quand les hommes jouent à la pétanque et que les femmes sont assises sur la chaise pliante et papotent le soir. Alors, quand j'avais lu dans les livres, j'allais chercher des exemples partout, et d'un coup, à 35 ans, je me dis, oh, putain, le grand village, c'est ça, en fait, tout se jouait là, toute la vie sociale se jouait là, les histoires de chasse, le conseil municipal, tout se jouait dans la tripette avant l'apéro. Et ça, j'avais évacué ça parce que je venais d'un pays de se développer, tu vois. Moi, j'ai l'électricité en 62 dans mon village. Donc voilà, moi, tout ça, j'ai évacué. Voilà, bon, c'est un exemple. Il y a plein d'exemples comme ça, notamment aussi sur les aptitudes artistiques, des choses qui sont brimées quand t'es enfant. Tu parles dans des logiques très professionnelles ou autres, et puis d'un coup, t'as le déclic, quoi. Et à 40 ans, tu découvres que c'était le piano ta passion, quoi, et que d'aller vers le réseau, ou ça peut être à MJC du coin, poum, d'un coup, tu auras accès à ça. Voilà, en fait, ce qui fait que les réseaux, ils marchent, c'est des instants magiques comme ça, c'est des rencontres. Donc ça, c'est pas Internet qui le fait. Excuse-moi, parce qu'Internet, c'est un vieux débat, et après,
non, moi,
ça
me fait plaisir. C'est intéressant, hein, parce qu'il y en a qui jouent que pas, c'est vrai que c'est...
Aujourd'hui, on n'est pas dans des crises de pénurie, on est dans des crises, je ne sais pas ce que c'est le mot sur l'inverse de la pénurie, mais d'abondance. Et après, c'est comment on la gère, l'abondance, pour comment on y a accès. Mais même à Internet, je veux dire, aujourd'hui, tu as accès à tout, mais si tu ne fais pas le tri, ça tient à quoi d'avoir accès à tout?
Si tu fais
le tri.
Le tri.
Tu peux bien noter toute ta journée. Mais... Donc après, c'est aussi comment tu as des accès. Voilà. Ben voilà, un internaute qui fait qu'internaute, s'il se connecte avec personne, s'il ne fait que surfer, il va avoir une gamme, c'est après en se créant des liens, des liens qui sont créés entre les sites.
Et ce qui est intéressant dans Internet aussi, c'est parce qu'il y a l'échange, il y a aussi le partage. L'échange, on échange quelque chose. Le partage, c'est... je trouve d'ailleurs que c'est plus approprié pour le partage que l'échange. Et puis aussi la mutualisation. La mutualisation, c'est mettre en commun le savoir et la mettre à disposition de tous. Et Internet, c'est aussi, ça te permet ça, c'est-à-dire on met tout le savoir dans un espace.
Ouais, ben Linux, c'est un bon exemple de ça. Système Linux, c'est un bon exemple de ça, où en fait tous les gens bénévolement veulent rechercher sur le nouveau programme et mettre à disposition ça de tout le monde.
pas ça, oui, ça serait facile. Mais si ça marche, à mon avis, c'est parce qu'il y a une réciprocité qui est immédiate. C'est que le mec, quand il bidouille chez lui, ça l'intéresse de bidouiller et de communiquer ce qu'il a bidouillé. C'est pas gratuit. Donc la mutualisation, ça implique une réciprocité quand même. C'est pas du partage. Parce que non, le partage, t'as un gâteau et tu le partages, et t'as que des morceaux. Donc là, c'est pas un bon mot, le partage.
C'est un échange, c'est un échange.
Ouais,
on garde chacun le savoir, quoi. Enfin, je sais pas.
Et ouais, mais l'intérêt, c'est de faire grossir le gâteau.
Bah, le mot échange, c'est j'échange un bien contre un autre bien. Mais un savoir, c'est plus un partage qu'un échange, finalement, puisque on garde le savoir que l'on a. On le partage à l'autre.
Non, tu le gardes, c'est pas sûr. Tu peux croire que tu as un savoir, tu te mets à échanger avec quelqu'un et tu te rends compte que ce n'est pas un savoir et ça te bouscule la tête. Ah.
Dans la notion d'échange, il y a toujours un truc qui diffère un peu, c'est qu'un échange, on voit un échange, c'est-à-dire contre, enfin pas contre quelque chose, mais quelque chose et quelque chose, un échange avec quelqu'un. Et avant, elle parlait justement de qu'on peut aussi envisager. Ce que moi je donne à quelqu'un, je le récupérerai d'ailleurs et qu'on n'est pas obligé d'avoir une relation. C'est peut-être là le partage.
C'est pas avec la même personne.
Voilà, c'est pas avec la même personne.
Moi je t'initie à l'informatique, toi tu m'initieras au djembé ou à la.
Non, mais justement, pas forcément lui.
Mais c'est ça le plaisir. C'est
toi qui informeras quelqu'un d'autre, ce n'est pas forcément moi. Moi je donnerai qu'un échange, que ce que je sais.
Et moi, je suis très partant sur ce principe-là. Enfin, j'ai raté le début, donc je ne sais pas tout à fait exactement comment on parle à fond. Le mot en général, je pense qu'on dirige assez bien. Mais, et donc, moi, je suis sur ce principe-là, je suis toujours prêt à donner et à montrer ce que je sais faire. Ça valorise énormément ce que je sais faire, et puis.
Ça te coûte
pas. C'est mon principe, quoi. Enfin, je veux dire, j'ai du mal à l'acquérir. Des gens m'ont aidé, ou des gens m'ont donné des outils. Je fonctionne sous le système libre. Donc les gens m'ont donné des outils, quelque part, dans l'échange, j'ai ma dette. Et cette dette, je vais l'apprendre. Ce que je rencontre énormément comme problème, c'est que donc, du coup, ça devient quelque chose de gratuit. Et j'ai assez souvent une réaction, c'est gratuit, donc on en prend grâce à la personne que j'ai qui n'est pas tout à fait dans le même esprit que moi. C'est gratuit, donc à peine j'ai reçu quelque chose, tout de suite j'en demande quelque chose et quand les stocks sont limités. Il faut tout de suite, j'en profite. Et ça détruit mon système, parce que je me retrouve assez vite avec quelqu'un qui... j'ai vraiment l'impression que j'ai que des affamés autour de moi. Oui. J'exagère dans la façon de parler, mais j'ai que des affamés autour de moi et que, comme dit, quand je suis en train d'expliquer un truc, ils sont déjà en train de penser à la question suivante qu'ils vont me poser, parce que c'est tellement rare qu'ils n'ont rien payé que vite on va en prendre plus. Et ça, c'est un problème que dans ma démarche, je suis en train de
lors de ta médiation. C'est-à-dire, lorsque tu vas être l'OFRAP et qu'en face de toi, tu vas avoir des demandeurs, il va y avoir un médiateur. Le médiateur, la médiatrice. Eh bien, l'intérêt de la médiation, c'est justement de pouvoir dire jusqu'où vous avez envie d'apprendre. Toi, tu lances, il va y avoir une conversation entre les deux parties, et la médiation va réguler pour pouvoir savoir qu'à un moment donné, ben, vous voyez, mes compétences s'arrêtent ici. Mais ça ne va pas dévaloriser pour autant ton savoir que tu vas donner à l'autre, que tu vas enseigner. Et de l'autre manière, les cartes seront mises sur table, c'est-à-dire que les demandeurs sauront qu'à ce point-là, eh bien, on s'arrêtera parce qu'on ne peut pas aller plus loin. Donc c'est clair, net et précis. Si l'échange a lieu, c'est une bonne chose. Si l'échange n'a pas lieu à ce moment-là, eh bien, tant pis. Mais au moins, on restera pas sur quelque chose de frustrant. Au moins, le médiateur aura fait son rôle jusqu'au bout.
Il y a un métro, mais enfin, c'est pour ça que je disais, j'ai raté le début de
la médiation.
La discussion aussi.
Vous pouvez parler un peu plus de la médiation.
Sans un système de médiation, moi, ce que je fais personnellement, quand par exemple, les gens me demandent beaucoup de choses, comme ça, moi, j'essaie de voir à travers la personne qui est en face de moi, qu'est-ce qu'elle peut m'offrir en échange. J'essaie de la questionner, d'essayer de comprendre. Qui elle est, quel est le savoir qu'elle a, ou quel est qu'est-ce qu'elle peut m'apporter. Et puis, quand je vois ce qu'elle peut m'apporter en échange, je lui en parle, et en fait, elle s'avère qu'elle est très contente de me l'échanger.
Oui. Et on repart dans un système bilatéral où après tu ne peux plus le faire avec des choses, des gens qui ont quelque chose à t'apporter. Après on repart dans un truc bilatéral où je ne peux plus recevoir des associations informatiques que si elles s'intéressent au Django.
Dans une association, etc., avec un médiateur, etc. Mais là, on parlait d'échange de savoir dans la vie de tous les jours.
Mon intime conviction sur le fait que ça marche dans les réseaux comme dans les selfs, c'est le fait justement que même si on est dans une réciprocité qui est ouverte, par opposition à la réciprocité duelle, ça marche parce qu'il y a une réciprocité quand même directe, même si c'est toi qui m'offres et moi qui reçois. Il y a une réciprocité directe. Et si la réciprocité est faible, il y a un esprit un peu collectif qui fait qu'on le fait. Mais il y a quand même toujours une réciprocité directe et une identité du groupe. Voilà, je dirais que c'est un peu ça les deux choses. Donc ça, c'est lié à des réseaux de proximité, à des nombres qui ne sont pas trop importants de personnes. On le voit dans la réalité, maximum c'est 200 personnes et encore avec 150 maximum en échange. Et dans les 16, c'est le même ordre. Donc il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre, justement, c'est la réciprocité ouverte, mais parce qu'il y a quelque chose qui se crée dans la proximité. Dans des règles qui ne sont pas forcément dites, mais où on se sent tous à la même enseigne. Donc voilà, c'est un petit mix comme ça. Du coup, je ne sais pas ce que ça vaut, ces expériences. Ce n'est pas, c'est pas un modèle universel, parce que c'est d'abord un modèle local. C'est un modèle local, et donc je ne suis pas sûr qu'il donne des savoirs ou des enseignements sur la démocratie participative, par exemple. Parce que des fois, il y a eu ces amalgames. Je ne suis pas sûr.
Qu'un
réseau, ça fonctionne différemment qu'un clos de boule. Dans un endroit, il y a un clos de boule qui marche.
Moi, je trouve que c'est intéressant.
Des outils qui sont mis en place,
des outils de repérage de savoir, des outils justement, comment faire en sorte de. Je sais pas, les outils de où on organise la chose. Mais je sais pas.
Oui, mais là, toi, tu me parles des livres de Carré Bersuffrin, moi, la théorie, je la connais.